L'émission jazz d'Aligre FM.
Tous les samedis à 17h.
Sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Bonjour, bienvenue dans Jazzland sur Aligre FM, l'émission sur l'actualité du jazz. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux albums qui sont sortis il y a exactement 2 mois. Ils sont sortis le même jour d'ailleurs, c'est une drôle de coïncidence, le 7 mars dernier. Alors tout d'abord, on va évoquer Real Men Cry de David Lynx. David Lynx qui vient de fêter ses 60 ans et ses 40 ans de carrière, un parcours incroyable, un disque qui est publié chez Crystal Records. Bonjour David, bienvenue.
Bonjour
à Jazzland.
Alors
on va parler plus précisément de votre album à la deuxième partie de l'émission, mais okay. Le micro est ouvert, on va discuter tous ensemble, hein, bien
très
sûr.
Bien.
Et puis on va démarrer tout de suite avec un album, le dernier album de Thomas Naim, du guitariste Thomas Naim, qui s'intitule May This Be Love, et tous les amoureux de Jimi Hendrix vont savoir que ce titre correspond à quelque chose, puisqu'il s'agit d'un hommage à Jimi Hendrix. C'est un album qui est paru donc sur le label Rootless Blues. C'est votre propre label?
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors bonjour Thomas, bienvenue à Jazzland, bien
merci.
Sûr. Oui, je me suis dit, parce que ça ne me disait rien ce nom. Bah, c'est
oui.
bien de créer son propre label, ça simplifie la vie.
Tout à fait. Ouais, pour sortir des disques, c'est quand même plus pratique.
Bien sûr. Ouais. Cela dit, David, chez Crystal, il est bien parce qu'ils font un super boulot.
Ouais.
L'album, il est magnifique, il y a un livret, il y a plein de photos. Enfin, c'est un produit de luxe aujourd'hui, ça. Hein,
bah. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe.
Ouais, ouais, non, mais c'est, ça fait plaisir. Moi qui suis attaché à l'objet disque, le disque de David fait plaisir. Évidemment, le vôtre est plus cheap,
oui.
Mais bon, c'est pas les mêmes moyens, on va dire. Voilà.
Oui, mais c'est très, j'ai voilà. vu le layout, c'est très bien.
Bah, oui, non, mais c'est beau en même temps, cette guitare et le graphisme et tout.
Oui,
et
c'est tout assez minimal comme le contenu,
oui.
on va dire.
Et tout à fait.
Bah,
et,
réussi.
Oui, alors justement, le contenu minimal, parce que alors, vous avez eu cette idée incroyable. Vous avez toujours des très bons. Vous êtes fan de Jimi Hendrix, mais vous avez toujours des idées. C'est vous faites pas du copier-coller. Vous lui rendez hommage à travers une vision très personnelle de sa musique. Et là, vous avez décidé de reprendre Jimi Hendrix à la guitare acoustique. Alors, expliquez-moi comment vous est venue cette idée.
Alors, c'est pas vraiment moi qui ai eu l'idée au départ. Enfin, que moi, on va dire. C'était avec Ludovic Chazalon, qui est programmateur au Rhino Jazz.
En fait, c'était
festival.
Une commande, c'est ça?
Ouais, oui, c'est un peu une commande. Il voulait que je fasse un concert solo. Et quand on a parlé du répertoire ensemble, en fait, on s'est mis d'accord sur la musique de Jimi Hendrix parce qu'il m'avait déjà invité quand j'avais repris.
Alors, je précise aux auditeurs que vous avez déjà fait 2 hommages à Jimi Hendrix.
Voilà, celui-là, c'est le deuxième,
ouais.
en fait. Et j'en avais déjà fait un en groupe. Et il nous avait invité à jouer. Et il m'a dit, ce serait intéressant que tu fasses aussi des morceaux de Hendrix en solo. Et du coup, en fait, finalement, ça s'est transformé en un concert entier de Hendrix en solo. Et donc, quand j'ai préparé ce concert, j'ai commencé à le faire à l'électrique et un peu à l'acoustique. Puis, par flemme, j'avais que l'acoustique sur mon canapé. Et je me disais, ah, mais c'est super, en fait, à l'acoustique.
Bah ouais.
Et j'ai commencé à enregistrer des maquettes et je trouvais qu'il y avait un bon sujet pour un album.
Parce qu'on parle toujours de Jimi Hendrix en tant que guitariste évidemment exceptionnel, mais on oublie de dire que c'est un superbe compositeur et que ses morceaux, on peut les jouer au piano, on peut les jouer à la guitare, on peut les jouer de plein de façons parce que c'est des super compositions.
Ah, complètement, moi je trouve que c'est un immense compositeur et c'est vrai que donc, c'est plus dans l'imaginaire collectif le guitar héros qui va brûler sa guitare à la fin des concerts, mais c'est vrai que c'est un compositeur incroyable.
Bah, oui.
Et d'ailleurs, il a été énormément repris et par tout le monde, par plein de jazzmen
aussi. Ah ouais,
aussi.
Complètement. Ouais, ouais,
ah ouais.
Ben on va écouter, on va avoir tout de suite une idée. J'ai choisi d'écouter Manic Depression.
Thank you.
Voilà, c'était Manic Depression par Thomas Naïm. Elle sonne superbe, cette guitare. C'est magnifique, un très très beau son. Hein. C'est des guitares vintage. Hein.
C'est des guitares vintage. Alors là, c'est une Martin D18 de 68.
Ouais.
Que j'avais trouvé à Londres.
Bah, faire du Hendrix avec une guitare de 68, c'est parfait.
Ouais, voilà, ça collait complètement. On était dans l'année. Quoi. Et ouais, je suis tombé. Gros coup de cœur pour cette guitare que j'utilise beaucoup maintenant.
Ouais. Magnifique. Et alors, c'était enregistré dans un studio particulier
Alors, c'était à Mercredi 9, qui est un studio dans le 20e, un ancien. Donc, c'était des anciens parkings réaménagés en studio. Et c'est un studio dans lequel j'ai pas mal enregistré. J'avais fait mes précédents disques, notamment celui en hommage à Jimi Hendrix et un autre avant. Et c'est un studio que j'aime beaucoup parce que l'ingé son a vraiment tout le matériel vintage qu'il faut pour ce genre de recording. Je trouve les bons vieux micros, tout ça.
D'accord, oui, ben, y a ce côté vintage un peu patiné, hein, mais ça sonne super. Alors, quand on fait un disque en solo, tout seul, avec de la guitare acoustique, normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'un directeur artistique. Et pourtant, vous avez pris Daniel Ivinec. Ouais. Alors, quel a été son rôle? Parce que ça m'interpelle, ça.
Ben, en fait, j'avais travaillé avec lui déjà sur mon précédent disque. On s'était super bien entendu. Et c'est vraiment devenu un ami. Et au début, je pensais le faire tout seul. Et finalement, on a déjeuner ensemble et puis je lui ai parlé du projet et puis pendant le déjeuner je me suis dit non mais en fait j'aimerais bien le faire avec lui quand même, donc je lui ai proposé, je lui ai dit viens écouter me dire ce que, et en fait c'était vraiment utile de l'avoir parce que ça m'a enlevé un énorme poids, on va dire, rien que de sélection des prises, ce genre
voilà,
de choses.
C'est ça en fait son rôle, c'est ça, c'est de choisir voilà. Les prises, l'ordre des morceaux,
l'ordre des morceaux,
sur le disque.
Me dire non là prends plus ton temps, là tu peux rallonger un peu l'intro, là peut-être essaye de le jouer à un autre tempo. Voilà ce genre de choses, et c'est vrai que c'était toujours de très bons conseils, en tout cas ça m'a vraiment aidé.
Ouais puis on est, puis voilà, c'est un exercice solitaire mais c'est bien d'avoir quelqu'un,
voilà, c'est très
à côté
dur,
quand même.
C'est très dur de se réécouter quand on enregistre en solo, ouais. Et donc ça m'a aussi beaucoup rassuré parce qu'il me disait non t'inquiète pas, là on est sur la bonne voie, c'est bien. Et moi j'étais là, oh là là, j'arrivais pas à me réécouter, et donc ça m'a beaucoup aidé aussi à ce niveau là
alors je fais une petite parenthèse vers David Lynx, parce que vous avez fait vous-même la direction artistique sur votre disque comme un grand garçon.
Oui, toujours. J'ai aussi beaucoup réalisé des disques des autres.
Oui.
Donc, et en fait...
Vous avez une idée précise du son que vous voulez...
Je veux dire, je crois que 70% de la production d'un disque de réalisation, c'est le choix des musiciens. De bons morceaux, bonnes paroles. C'est la remarque que je voulais faire sur ce que je viens d'entendre, c'est que... Le morceau est bien, donc je n'entends pas du tout Jimi Hendrix, j'entends tout, j'ai jamais...
Vous entendez Thomas Naïm, voilà, mais tant mieux,
parce
tant
que,
mieux.
Parce que quand si le morceau est bien, ben, tout le monde peut le jouer.
Surtout que vous êtes chanteur, David, et Jimi Hendrix était chanteur. Il paraît-il qu'il n'aimait pas du tout sa voix. Moi, j'adore sa voix personnellement, ouais, mais il paraît-il qu'il détestait sa voix, parce que son manager qui l'a poussé à chanter, au début, il ne voulait pas chanter. Ouais. Hein. Et là, vous avez choisi, vous, Thomas, de tout jouer en instrumental, et d'ailleurs, tous les hommages que vous avez faits sur Hendrix, c'est toujours en instrumental.
Quasiment, sur le disque d'avant,
oui,
il y
a une exception.
Hugh Cotman qui est invité
c'est
titre.
Vrai qu'il y a Hugh, oui.
Et Celia Kameni aussi, qui est sur un autre
mais
morceau.
Mais la plupart du temps, vous avez... Alors que c'est quand même des chansons qui racontent une histoire.
Bah moi, j'adore jouer des mélodies à la guitare. Donc voilà, c'était aussi l'idée, quoi, de reprendre ces mélodies et de les adapter, de les jouer moi comme si j'étais le chanteur, en fait.
Puis surtout, le fait de ce que ça raconte, la Manic Depression, ça raconte quand même des choses. Ouais. Peut-être que vous avez aussi le texte en tête quand vous jouez.
Oui. Bah, d'ailleurs, notamment sur ce disque-là, il y a des textes que j'ai essayé d'apprendre par cœur pour être au plus près de ses articulations, de la manière dont il les chantait.
Alors, vous avez déjà fait des hommages à Hendrix, mais alors à chaque fois, vous le faites à votre manière. Par exemple, quand vous repreniez Jimi Hendrix avec votre groupe, vous n'utilisiez pas du tout de pédale wah-wah, de pédale fuzz, de distorsion. Vous aviez un son très droit, et ce qui donnait un cachet très particulier, ce qui mettait aussi en avant ses compositions. Alors à chaque fois, comme ça, vous trouvez une clé pour un petit peu donner un focus particulier sur les chansons d'Hendrix.
Oui, ben, en fait, ça, c'est-à-dire qu'on avait essayé sur le disque d'avant en groupe, on avait quand même joué pas mal de fois les morceaux en répétition pour essayer de trouver un axe intéressant, parce que si c'était pour refaire exactement la même chose...
Bah non, ça, d'ailleurs, il a été beaucoup copié,
voilà, beaucoup
on
copié,
peut le dire.
Et bon, finalement, on n'a pas trop envie de les écouter, ces disques, on a envie d'écouter les originaux, donc il fallait vraiment trouver un axe intéressant qui révèle presque autre chose, voilà, et finalement, je trouve qu'avec le trio, on avait trouvé quelque chose, moi, qui me plaisait, et là, avec le fait de jouer les morceaux à la guitare acoustique, ça a apporté aussi autre chose.
Bon, on va écouter tout de suite un deuxième extrait. Alors, moi, c'est mon album préféré d'Hendrix, c'est Electric Ladyland. Bon, il faut dire qu'il n'en avait que 4 de son vivant. C'est vrai qu'Electric Ladyland, vous allez être d'accord avec moi, c'est son chef-d'œuvre.
Ah bah,
chef-d'œuvre,
moi,
hein.
Pour moi, c'est le top.
On
c'est
est d'accord.
Top,
et peut-être que le morceau clé, phare de cet album, c'est certainement Voodoo Child. Et oui, c'était bien le Voodoo Child de Jimi Hendrix par Thomas Naim, tiré de son album May This Be Love, qui est sorti il y a exactement 2 mois. Alors, cette chanson, elle est incroyable, cette chanson.
Voodoo Child.
C'est compliqué à reprendre, du coup, parce qu'elle est tellement emblématique de l'univers de Jimi Hendrix.
Bah ouais, au début, je n'avais pas forcément prévu, d'ailleurs, de l'enregistrer pour ce disque. Et finalement, je l'ai fait un peu en fin de session. On avait du temps. Et puis, j'ai dit, bah voilà, j'ai cette version-là, on tente. Et Daniel, bah voilà, un des apports de Daniel, il m'a dit, ah non, il faut absolument la mettre sur le disque. Moi, ça se trouve, je ne l'aurais pas mise.
Ah oui, d'accord.
Et lui, il m'a dit, ah non, il faut vraiment le mettre.
Il a eu raison.
Et il a eu raison, il a eu complètement raison.
Il y a dans Electric Ladyland, j'en parlais tout à l'heure, il aimait tellement cette chanson, Jimi Hendrix, qu'il y a 2 versions différentes sur l'album. Et les deux sont sublimes. Alors, on connaît plus la version courte, j'ai envie de dire, celle où, avec cette intro à pédaloa, mais il y a une autre version très blues avec de l'orgamonde, avec Jack Cassady à la basse, qui était le bassiste de Jefferson Airplane, avec qui il s'entendait très bien, d'ailleurs, Jimi Hendrix. Et c'est deux visions complètement différentes.
Ah oui, les deux.
Et moi, j'aime les deux et je ne choisis pas. Hein.
Non, les deux sont géniales et elles sont complètement différentes, en fait. Vraiment super, ouais. D'ailleurs, même le titre, c'est Voodoo Child.
Slight
Voodoo
Return.
Child.
Ouais.
Mais non, les deux versions sont vraiment
et
incroyables.
Il l'a joué systématiquement sur scène à tous les
concerts.
Ouais,
c'était après son morceau un peu. Ouais. Il le jouait tout le temps, incontournable.
Oui, que ce soit à l'île de Wight ou à Woodstock, évidemment. Alors, à Monterrey, il ne l'avait pas encore composé, donc il ne pouvait pas la jouer. Il a quand même fait les 3 grands festivals de rock, les 3 plus grands, Monterrey, Woodstock, l'île de Wight.
Et donc Woodstock dingue, et l'île de Wight en star est montré, c'est là où il s'est révélé au public américain.
Là, il leur a dit, vous voyez, je suis américain, je ne suis pas anglais, hein, commencez à m'apprécier un peu, parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas.
D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment le concert parfait de Jimi Hendrix, le concert de Montreux, je le trouve incroyable. Quoi, le trio, là, ça joue, c'est parfait.
Et puis, ça finit avec cette guitare qui l'enflamme et tout. C'est presque chamanique, hein, on peut dire ça. Hein,
complètement. Ben en fait, c'est-à-dire qu'il doit tout donner, et puis là, il fait tout, il fait un concert exceptionnel, et il rentre dans la légende avec ça.
Hein, bah ouais. Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez Jimi Hendrix, Thomas ?
Moi, ça a été déjà un coup de cœur, enfin un coup de foudre, on va dire, immédiat pour son son de guitare, parce que c'était dans un film, en fait, où j'ai découvert au début d'un film, dans le film, l'acteur joue Purple Haze à un moment sur un lecteur cassette, et il y a sa femme qui arrive et qui lui dit tu trouves pas qu'il est un peu tôt pour écouter du hard rock, et il dit non, ça ressemble ni de près ni de loin à du hard rock, c'est du Jimi Hendrix. Et où je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et donc je suis allé acheter un disque, voilà, et donc ça a été vraiment et après les compos, tout, et puis le guitariste évidemment.
Alors, Jimi Hendrix était autodidacte. Et alors, quand on connaît bien un peu l'histoire des guitaristes, on se rend compte que les plus grands guitaristes étaient tous autodidactes et ne savaient pas lire la musique. Je pense à Django Reinhardt, à Wes Montgomery et à Jimi Hendrix. Alors, comment vous expliquez ça, Thomas ?
C'est vrai que la guitare, on n'est pas, on l'apprend souvent sans apprendre le solfège au début.
Mais vous savez lire la musique ?
Oui, mais très mal.
Vraiment,
j'ai appris assez.
Tous les guitaristes me disent ça. Oh, mais moi, je suis un très mauvais lecteur. Ouais. Et
non, vraiment, parce que je n'ai pas du tout commencé. J'ai commencé à apprendre à lire très tard. Et donc, c'est très compliqué, je pense, pour un lecteur de d'apprendre tard.
Ça lui a joué des tours, Hendrix, parce qu'il devait collaborer avec Miles Davis. Et Miles Davis lui avait envoyé des partitions. Et Hendrix lui a dit, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit là-dessus. Ça m'intéresse. Ça va beaucoup fâcher.
Ouais, et donc, ils ont Hendrix. Développé des oreilles incroyables. Ouais. Donc, Django, Wes.
Ça. En plus, Django, il lui manquait deux doigts. Non, mais c'est des phénomènes, tous ces gens-là. Et Hendrix était gaucher, ça change quelque chose qu'il soit gaucher ?
Ça change quelque chose dans le sens où il y avait moins d'instruments disponibles en tant que gaucher, surtout à l'époque. Donc, il était obligé de prendre des instruments de droitier, inverser
les cordes.
Voilà, et donc, l'instrument est plus difficile à jouer, je pense.
Alors, on va écouter Spanish Castle Magic. Alors, vous avez fait quelque chose d'assez incroyable, c'est que vous avez mis un petit peu de flamenco dans ce Spanish Castle Magic, alors qu'en fait, la chanson ne raconte pas du tout une histoire espagnole. C'était le nom du club où il a débuté à Seattle. Ouais. Il s'appelait le Spanish Castle Magic. C'était le nom du club, et comme il avait débuté là, on lui avait donné sa chance, il avait gardé ça, il avait voulu consacrer une chanson à ce club. Mais vous en avez fait quelque chose de flamenco, on l'écoute tout de suite.
Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Spanish Castle Magic de Thomas Naïm, tiré de l'album May This Be Love. Alors, je voudrais savoir ce qu'en pense David Links de ce projet.
Ah ben, j'adore, parce que je ne pense pas un instant à Jimi Hendrix. Donc, le plus bel hommage qu'on peut faire à Jimi Hendrix, c'est de ne pas lui ressembler. Oh. Et d'élever ses morceaux d'une
autre
façon.
C'est un beau compliment. Quoi. J'imagine Merci. Que vous l'avez beaucoup écouté, hein, parce que vous êtes de cette génération.
J'ai enregistré aussi, oui.
Forcément écouté Jimi Hendrix et baigné un peu là-dedans.
J'ai, sur mon disque avec Michel Azzi-Giorgio en duo, j'ai fait un morceau. Et puis, on a fait un concert avec Toots.
Ah oui, avec Toots.
C'était il y a 20 ans. Il m'a dit, j'ai jamais joué Jimi Hendrix. J'ai dit, mais t'inquiète, ça va, ça va.
C'était un très bon guitariste, Toots aussi, il faut le dire, parce qu'on parle toujours de l'harmoniciste, mais c'était aussi un très bon guitariste. Oui. Alors, je sais que vous aimez beaucoup les guitaristes, David, parce que vous avez longtemps collaboré avec Nguyen Lee. Hein, vous avez d'ailleurs repris pas mal de chansons pop de Nguyen Lee sur un de ses albums où il reprenait comme ça plein de chansons pop. Mais il y avait pas d'Hendrix, puisqu'il avait déjà consacré lui-même un disque à Hendrix quelques années avant. Et puis, vous avez eu longtemps Manu Kodjia auprès de vous.
Oui, j'ai travaillé
avec... C'est quand même quelque chose, Manu Kodjia.
Marc Ribot.
Oui, aussi, si Il choisit pas les, les pires, hein, quand même.
Puis avec Birelli en duo quelquefois et notre regretté guitariste national.
Sylvain Luc. Aussi, Ah, ça c'est un grand choc, hein, la perte de Sylvain Luc. Alors là, vous avez décidé sur votre dernier projet de remplacer Manu Kodjia par Herman Mehari, par un trompettiste. Donc c'est autre chose, mais ça donne une autre couleur, du coup, voilà.
Oui, par exemple, Manu Kodjia, dans le dernier disque, j'ai décidé de l'enregistrer par après. J'avais peur que l'interaction avec le groupe et sa guitare ferait trop rock.
Ah oui, d'accord.
Je veux dire, c'est pas que j'adore le rock, c'est pas ça, mais non, le fait de l'avoir enregistré après, ça donne une autre son, une autre confrontation qui, quand il est venu nous rejoindre sur scène, ça sonnait comme si il y avait cette autre confrontation.
C'est intéressant. Alors on va écouter un tout dernier, avant de passer à votre disque, cher David, on va écouter un tout dernier morceau de Thomas Naïm. Alors je voulais préciser que sur cet album, ce ne sont que des compositions de Jimi Hendrix, à l'exception de trois titres. Alors le premier, c'est Sgt. Pepper's des Beatles, mais ça c'est très logique puisque Jimi Hendrix l'avait repris. Il l'avait même repris juste quand le disque était sorti, genre la semaine d'après.
Je crois, 3 jours après.
Et Paul McCartney était dans la salle, il n'en revenait pas. Il dit, mais il m'a déjà piqué le morceau, là, il comprenait pas, il était estomaqué. Et alors, il y a une grande surprise dans ce disque et je voudrais que vous nous expliquiez le choix d'avoir repris Jealous Guy de John Lennon. On se demande un peu ce qu'il fait là, ce morceau. Alors, expliquez-moi.
Alors, en fait, c'est que j'avais cet arrangement déjà que j'avais joué justement à Daniel Ivinec et quand on préparait l'album et je lui ai dit j'aimerais bien l'enregistrer aussi ce morceau-là. Bon, c'était pas forcément pour ce disque, mais je lui ai dit j'ai cette version, j'aimerais bien en faire quelque chose. Et il m'a dit on l'enregistrera et on l'a enregistré. En fait, on trouvait que ça collait vraiment avec le reste du disque, mais au niveau du son, tout ça. Et John Lennon, les Beatles.
Oui, c'est pas incohérent.
C'est pas complètement.
C'est un morceau de 71, Hendrix est mort en 70, on n'est pas loin.
Mais
une mélodie tellement magnifique.
On s'est dit, c'est vrai que c'est un peu, une sorte de sortie de route, mais qui colle avec le reste de l'album musicalement.
D'accord, voilà une bonne explication. Alors, vous avez composé un morceau dans cet album qui s'appelle Cherokee Blues et qu'on va écouter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce... Donc, c'était quoi? C'est un hommage à Hendrix, quelque part, à ses origines amérindiennes qui venaient de sa grand-mère?
C'est un peu... Alors, il a un morceau, lui, qui s'appelle Cherokee Mist.
Oui.
Donc, c'était un peu en rapport avec sa composition et à la fin de moi je reprends souvent Cherokee Mist en concert et à la fin je joue un riff en fait que j'ai trouvé et du coup j'ai rejoué ce riff en studio pendant 3 minutes là j'ai plus en boucle et j'ai fait un solo par dessus et voilà donc j'en ai fait une compo un peu en hommage à son Cherokee Mist.
Et on va l'écouter. Moi j'ai entendu un peu du Ali Farka Touré dans votre version. Vous êtes d'accord, vous assumez? Alors
complètement.
Je me suis pas trompé, alors c'est parti avec Cherokee Blues. Voilà ce magnifique Cherokee Blues de Thomas Naïm. Juste rapidement, des dates de concert, Thomas?
Bah alors, je fais un showcase le 16 mai à Gibert.
Très bien, pour les Parisiens, super.
À partir de 18h. Et je serai le 23 mai pour le Pavillon Jazz Festival, au Pavillon Sous-Bois, à l'Espace des Arts des Pavillons Sous-Bois. C'est en première partie de Yoon Sun Na.
Eh bien, très très bien, super. Eh bien, on va passer à notre ami David Lynx, Will Men Cry. Alors, yes. Il faut que les hommes, il faut parler de la sensibilité des hommes, que les hommes peuvent pleurer aussi, c'est important, hein.
Oui, ben oui, c'est, le titre m'est venu en plein Covid. Il y a la famille a grandi aux États-Unis par le mariage de mon frère avec sa femme qui est afro-américaine. Il y a un des neveux qui était dans un gang à Houston qui a été abattu par le gang. Oui, ouais. Donc j'ai suivi j'ai pas pu y aller. J'ai suivi l'enterrement par Zoom. Donc il y a la caméra derrière l'église. Il y avait le choral gospel. Il y avait le prêcheur qui parlait au premier rang à la mère et ses sœurs qui pleuraient abondamment. Et puis je voyais pas la rangée des hommes qui étaient loin derrière, mais dans la rangée de droite. Donc il s'est adressé à eux. Visiblement, ils pleuraient pas. En tout cas, ils étaient. Donc il a dit, il leur a fait un speech. Il faut laisser couler les larmes. Because real men cry. Et baf. Et ça m'a, à la maison, ça m'a, cette phrase m'a. m'a frappé comme une giflette.
Alors, est-ce que vous connaissez cet album du grand chanteur noir américain Joe Williams? Mm-hmm. Il a fait un album qui s'intitule A Man Ain't Supposed to Cry.
That means that he cries. Ça veut dire.
Ça déjà depuis un moment. Ouais,
très
ouais.
Bien.
Ouais, donc ouais. Un petit. Bah, c'est bien de parler de ça aussi parce qu'on n'en parle pas souvent.
Non, on n'en parle pas souvent. Je crois que la position de l'homme dans la société, l'homme il est un peu perdu là parce que.
Bah oui, je suis d'accord.
quand il ouvre une porte, il veut être galant, il se fait engueuler. Quand il ne veut pas se faire engueuler aussi, ça dépend. Ouais,
ça devient compliqué.
Ça devient un peu compliqué.
On a du mal à dire à une femme qu'elle est belle. C'est ça devient délicat. Ouais. Mais on a le droit de pleurer, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire, alors vous avez fêté vos 60 ans, alors il y a plusieurs concerts qui vont... Il y a eu le concert de sortie de disque à l'Ermitage où vous avez quelque part fêté vos 60 ans et vos 40 ans de carrière, parce que vous avez démarré très jeune, vous étiez batteur d'ailleurs.
Puis on a fait le concert à Lausanne, à Bruxelles, à Bielefeld en Allemagne avec l'Orchestre Symphonique, donc ça a été quelques semaines.
Et là, il y a un gros concert à Dinan, il faut en parler,
à
David.
À Dinan Jazz Festival. Où j'ai avec le groupe Real Men Cry, avec comme il y a des invités, il y a Grégoire Marais, il y a Paolo Fresu qui vient, et puis j'ai fait avec Jazz Station Big Band, on reprend certains morceaux de plusieurs albums, ça c'est juste après quoi, donc
qui a fait les arrangements avec
Gianluigi Gianatempo, c'est un Italien qui est dans la lignée de Maria Schneider, il écrit beaucoup pour des big bands aux États-Unis. Magnifique dans les textures, recherche
rythmique. C'est important, les arrangements. Et c'est la date de Dinan, s'il vous plaît, David?
Oui, 25 juillet.
25 juillet. Et tant qu'on y est, pouvez-vous nous dire quelques autres dates
Demain, je suis à Chaumont, l'invité du projet qu'on a enregistré, où je suis en invité avec André Ceccarelli et Pierre-Alain Gouache et Diego Humbert pour les 20 ans de la disparition de notre ami Claude Nougaro.
Oui.
Et puis, je suis à Nantes mardi pour un projet avec le guitariste David Chevalier.
Ah oui.
C'est un travail sur Purcell.
Ah, dites-nous. Alors, lui, il est très, très sur les musiques classiques. Il avait fait un très bel album sur Gesualdo. Vous vous rappelez de ce projet? C'était magnifique. Et oui, il est très, très branché là-dessus, et David. Puis, super musicien, d'ailleurs.
Et puis, il y a des dates à La Réunion, et en Belgique, et en Hollande. Et puis je fais des dates cet été en invité de Rhoda pour son projet.
Ah, bah, Rhoda Scott, bien sûr. Hein. Bah oui, c'est la famille, ça. Hein. Ouais. Mais là, vous êtes entouré de femmes. Alors, vous avez le droit de pleurer encore plus.
Ah ouais.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un disque bilan, un petit peu, avec cet anniversaire important, avec ce groupe qui vous suit depuis longtemps et qui vous soutient, et moi je vous ai vu au concert à l'Ermitage, quel groupe vraiment formidable, vous pouvez tout faire avec tout, vous avez une liberté totale.
Oui, tout à fait, j'ai l'impression que je dois combler rien, donc je peux parfois me mettre de côté et les regarder jouer, et oui, c'est magnifique.
Alors on va citer tous ces musiciens, je vous laisse les citer bien sûr.
Grégory Privat,
piano,
avec qui je joue beaucoup en duo aussi pour ce répertoire. Chris Jennings à la contrebasse, Hermon Mehari à la trompette et Arnaud Dolmen à la batterie.
Quel groupe formidable. Et alors, vous avez ce côté international, cher David. D'abord, vous êtes belge, hein, je le précise pour ceux qui ne le savent pas. Mais chaque musicien a une nationalité différente, oui, quelque c'est... part. Bon, alors, il y a un Martiniquain, un Guadeloupéen. Ils sont tous les deux français, mais enfin, ouais. Ils ne viennent pas de la même île.
Oui.
Même si ça, c'est un peu... Il y a des cousinages. Ouais. Il y a un Américain, Herman Mehari, parce qu'il est né à Kansas City, c'est pas rien. Hein.
Mais il a nationalité française.
Je sais.
Et puis, Chris Jennings,
et
la même
Chris
chose.
Et puis Chris Jennings, qui est canadien, mais qui a aussi maintenant la nationalité. D'avoir française, sa nationalité et vous française. Qui êtes belge, ouais. Vous avez la nationalité française aussi?
Non.
Vous n'avez pas besoin en Belgique, on n'a pas besoin.
Voilà. Quand même, je veux dire, l'Europe, je crois que les jeunes, ils ne se rendent pas compte, ça voyage beaucoup moins facilement qu'avant.
Oui,
parce que c'est fait pour les riches, c'est pas fait pour le peuple, l'Europe.
Oui, c'est vrai.
Et on voit à quel point c'est difficile. Moi, je rappelle, il y a 30 ans, on savait ce qui se passait en Hollande, en Allemagne.
Vous avez l'impression que les gens sont plus refermés sur
oui,
eux-mêmes?
Oui, parce que c'est extrêmement difficile d'organiser les concerts dans les autres pays parce les impôts, les taxes sont tellement énormes dès qu'on sort du pays, dès qu'on sort de la France. Quand on va en Italie ou en Allemagne, c'est presque impayable pour l'organisateur. C'est toute une construction financière.
Alors on va écouter tout de suite un extrait de votre album, cher David. J'ai choisi « You'll Always Be Tomorrow ».
Thank you.
sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
You'll always be tomorrow, mon cher David. C'est un hommage à votre grand ami James Baldwin.
Mais en fait, je me suis rendu compte par après que je veux, parce que You'll always be tomorrow, et comme Alice Walker dit beaucoup dans ses interviews, on est toujours accompagné de ses ancêtres. Je veux dire, moi, je rentre jamais seul sur scène. Je me rends compte qu'il est toujours là.
Il y a des fantômes, il y a des esprits.
Esprit. Pas fantômes, mais esprit. Et c'est vraiment très, très fort de les amener avec soi sur scène. Ça donne une dignité au moment même.
Puis ça vous propulse aussi.
Ah oui, tout à fait.
Ça vous donne une énergie.
Oui.
Mais bon, ça, l'énergie est liée, hein, parce que là, le concert que j'ai vu à l'Ermitage, vous avez joué plus de presque deux heures et demie,
je crois. Oui, je ne me rends pas compte. Oui.
Presque deux heures et demie, mais c'est que ce groupe de folie, vous pouviez tout faire. Vous étiez sur un nuage, et nous, le public, on était sur un nuage aussi, évidemment, vous nous avez transportés. Il s'est passé vraiment un grand moment d'émotion, un moment très fort, je vous le dis très sincèrement.
Merci.
Mais vous le savez, parce que vous avez eu des retours extraordinaires. Mais vous devez être bien fatigué après ça, quand même. Parce que c'était...
Oui, oui, peut-être un peu, mais le lendemain, on est parti à 7h du mat
pour
la Suisse. Donc.
On a eu le temps quand même de manger un bout de gâteau, de boire une coupe de champagne pour votre anniversaire.
Ouais.
Et ça, j'avoue que Laurent Carrier avait bien fait les choses. Vous avez quand même un super manager avec vous.
Il est super.
Je vous disais que tout à l'heure, vous aviez remplacé Manu Kodja dans le groupe par Herman Mary. Mais alors, ça fait une deuxième voix derrière vous, un contre-champ, et c'est très intéressant, un contrepoint, j'ai même envie de dire.
Le choix de la trompette était très délicat parce que ce projet n'aurait pas supporté un trompettiste avec en premier plan la tradition du jazz. Il transcende comme Ambrose, Avishai Cohen. La trompette est transcende leur instrument. Donc, j'entends pas un trompettiste jazz, j'entends presque un peintre comme Wayne Shorter avec Joni Mitchell. J'ai l'impression. Il réagit sur des notes et c'est incroyable en studio parce qu'il parle très peu. C'est presque tous des premières prises. Il y a même un morceau où il y a. Il fait une intervention, il écoute vraiment les paroles, il réagit là-dessus. Il y a même un morceau de Growing Stone où il y a trois notes qui sont en dehors de l'accord. Mais c'est exactement ça qu'il fallait. Tu essayes de les changer, ça ne marche pas. Donc il est vraiment dans la texture comme un peintre.
Ouais, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on peut dire que cet album, c'est un peu la suite de Skin in the Game,
oui.
qui était votre album il y a 5 ans déjà, ça passe vite.
Ça passe très vite.
On avait fait une longue interview pour Jazz Magazine ensemble à la sortie de ce disque,
oui.
Je m'en rappelle.
Oui,
et c'était déjà un peu un disque bilan, donc ça fait un deuxième. Voilà, ça se répercute 5 ans après avec l'arrivée de ce trompettiste génial, mais c'est vrai que ce groupe, il ne faut pas le lâcher, hein, David. Gardez-le.
Non, je vais le garder, mais ils ont leur projet.
Ah bah ça, et c'est des stars, c'est tous des stars. Hein.
Ouais.
Alors, il y a un titre qui m'a interpellé, qui j'ai trouvé étonnant, qu'on va écouter d'ailleurs, parce que c'est un titre brésilien. Chorinho para una.
Pas brésilien, c'est moi qui l'ai composé.
Portugais
mais Non, c'est Chorinho para un novo dia.
Oui.
C'était en plein Covid, c'est un Chorinho... pour un jour nouveau, donc plein Covid, et j'ai jamais autant écrit que pendant le Covid.
Non, mais pourquoi avoir donné ce titre dans cette langue? Parce que les paroles sont en anglais.
Oui.
ça m'a interpellé. Bon.
Je chante le thème avec des onomatopées, et puis je chante le... Oui, parce que c'est un choro, et voilà. Et
oui, c'est un choro. Bon, on l'écoute tout de suite. C'est un très, très beau morceau, en tous les cas. La 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 la
to grow, joyful in its glory. Everything we hold in one moment now.
Et oui, cher David, redites-moi le titre, parce que moi, je prononce mal cette langue.
Chorinho para un novo dia.
Voilà, c'est beaucoup mieux quand vous le dites que moi, j'ai tout écorché. Alors, je voulais savoir ce que pensait Thomas de ce projet de David Links.
Bah, magnifique. Alors, j'ai écouté tout l'album, que je trouve super.
Bravo. Ouais.
Ouais, vraiment, déjà, les compos, génial. Et celle-là est vraiment super. Et c'est marrant, parce que là, le thème est revenu, là, justement, pendant la réécoute. Et voilà, l'interplay entre les musiciens, et ce que je disais avec Herman Mehari, qui est exceptionnel à la trompette aussi, comment il joue le thème. Enfin, ensemble, voix et trompette, ça marche super bien.
Ouais et puis c'est rythmique. Et puis
tout le groupe, tout le groupe est incroyable.
Il y a un superbe enregistrement, hein, très très belle qualité de son, Crystal Records, qui fait un super boulot. C'est enregistré chez eux à Rochefort. Mais vous nous disiez hors antenne que vous avez un mixeur qui fait le mastering et le mixage, qui est un petit peu votre chouchou, soigne bien. Hein.
À Udine, je viens d'enregistrer un nouveau disque avec Paolo Fresu et Gustavo Bettelmann. Donc, et comme j'ai enregistré aussi le disque avec Guillaume de Chassis et Mathieu Pastorini. Donc parfois, je vais là-bas pour enregistrer aussi.
Il n'arrête jamais, David Lee. Il n'arrête jamais. Mais il est en pleine forme, donc tout va bien. Alors moi, je voudrais vraiment signaler le travail de votre maison de disques Crystal, qui a fait un très, très bel objet. Achetez ce disque. N'allez pas sur les plateformes, s'il vous plaît.
Il y a les vinyles qui viennent sortir.
Achetez ce disque. Oui, mais le CD, il y a 10 pages. Il y a un livret de 10 pages. Et ça, c'est très, très rare. D'abord avec un très beau texte de mon ami Alex Dutil. Et ensuite, des photos, mais vraiment magnifiques. Alors, elles sont signées Jeff Ludovicius et Olivier Lopez.
Ouais.
Et puis un travail graphique qui est de Guillaume Sex, que je connais bien, hein, qui fait un super boulot. Il y a un vrai travail graphique et il y a toutes les paroles des chansons, parce que vous écrivez vos propres textes, il faut quand même le dire. Et oui, vous êtes auteur, compositeur, interprète.
Je crois que c'est très important, texte, parce que je vois quel rapport qu'on a parfois. Surtout en France, il y a un drôle de rapport à l'anglais. On traite souvent l'anglais comme si ce n'est pas important. Et puis on passe au scat. Je crois que une composition devient chanson quand il y a le texte.
Oui. Ouais, c'est intéressant. Mais alors, quels sont les thèmes qui sont soulevés un petit peu dans cet album? Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents ou chaque morceau, ça raconte une histoire globale ou chaque morceau est plutôt séparé
Mais la globalité vient du fait que que tout est composé et agencé par moi. Je fais toujours, j'invite toujours quelques compositeurs dedans pour donner un autre paysage, un mouvement.
Oui, alors
paysage.
Effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement d'autres compositeurs. Mais vous écrivez, c'est toujours vos paroles, par
toujours,
contre.
Toujours, oui.
Et vous avez besoin des fois d'avoir quelqu'un d'autre qui vous suggère une musique ou...
J'aime bien d'avoir... J'avais 25 morceaux que j'avais composés et puis j'ai...
Ah oui, il y en a 12 hein, là.
Là, il y en a 12, il y en a 13 sur la plateforme.
D'accord. Et alors, le vinyle, il y en a moins et un peu moins, non ?
Non, c'est un double vinyle.
Ah, c'est un double !
C'est incroyable, je viens de l'avoir.
Mais est-ce qu'il y aura le même travail graphique ? Il y aura toutes les photos ?
C'est incroyable.
Vous avez pu caser toutes ces photos et les paroles aussi ?
Oui, je viens d'une époque où, je me rappelle, j'avais fait des disques en vinyle en tant que batteur, et puis j'avais fait un disque assez commercial à New York avec Roy Ayers et tout ça. Je vais le mettre bientôt sur les plateformes. Et je me rappelle que mon producteur, je disais, est-ce que ça peut sortir en CD ? Parce que nous, ça sortait en cassette ou en vinyle. Et il me disait, ça sortira en CD si tu vends assez de vinyle, assez de cassette. Et maintenant, on pose la question, est-ce que ça sortira en vinyle ?
Ah oui,
si tu vends assez de CD.
Bon, ben, je compte sur vous pour m'en mettre un de côté,
okay,
mon
très bien.
Cher David. Hein. Ouais. Alors, on va écouter un dernier morceau qui s'appelle Resolution Chant. Racontez-moi, parce que vous m'avez dit, Orantène, que vous avez été inspiré par Pat Metheny.
Oui, il y a un disque que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, American Garage.
Bah oui, bien sûr, une référence absolue. J'imagine que Pat Metheny, ça vous parle, Thomas Naïm. Oui.
Et c'était drôle parce que une des fois que j'ai joué à Nice Jazz Festival, il est venu voir notre concert, il était au premier rang avec John McLaughlin. Donc pendant que je chante, je dis ouh. Et il était là et après. Il est tellement gentil en plus.
Ah oui, c'est un
John McLaughlin aussi. Mais moi, j'étais un peu. Oui, je vous ai beaucoup écouté. Non, oui, mais j'étais un peu. Je disais une connerie. Je disais, oui, j'ai beaucoup été American Garage. Vous connaissez, non ? Je dis, oui, j'ai fait le disque. Et puis, il a demandé de faire une photo à nous deux.
C'est sympa. Ouais.
C'est vraiment un homme.
Il y a une très très belle mélodie hein, dans ce morceau, et comme une chorale un peu, comme un hymne, c'est un peu un hymne, on peut dire ça.
Oui, tout à fait.
Et raconte quoi cette chanson ?
Il y a un message, c'est pas naïf, mais il y a un message de la nécessité de s'élever aujourd'hui. De ne pas nous laisser enfoncer par l'énergie que les politiciens nous envoient, parce qu'ils ne sont pas là pour nous, les politiciens. Ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux.
On est bien d'accord. Bah, juste avant d'écouter ce morceau, je voudrais d'abord vous remercier tous les deux pour votre présence, Thomas et David. Et puis je voudrais remercier aussi Armand et Philippe à la technique, ainsi que Madeleine et Salomon pour le générique et les jingles. Je vous retrouverai dans 15 jours. Mais en attendant, vous avez rendez-vous avec Jean-Marc Gélin la semaine prochaine. Oh. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur le site d'Aligre FM, ainsi que toutes les autres émissions de Jazzland. Voilà, on se quitte avec Resolution Chant. A new way of living.
right there for the world, for your eyes to see, part of one universe. Because up from the valleys we climb, up until we reach that higher place. This is my resolution song.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.